Une autre école est-elle possible? C'est la question que nous nous posons cette semaine. Et à cette question, certains répondent oui. Ivan Illich, né en 1936, mort en 2002, figure de proue de l'écologie, est l'auteur d'Une société sans école, livre dans lequel il affirme en 1971 que le problème de l'école est qu'elle fait croire que l'éducation est le produit de l'enseignement. Alors sa solution? Eh bien, plutôt que de réformer l'école, imaginez une société sans école. Mais à quoi pourrait bien ressembler une société sans école? Elle est en route sur les chemins de la philosophie. Bonjour Martin Fortier.
Bonjour Adèle Manoret.
Vous êtes doctorant en philosophie et sciences cognitives à l'Institut Jean Nicot et c'est vous qui allez être notre guide dans la pensée d'Ivan Illich aujourd'hui. Bienvenue sur les chemins de la philosophie.
Merci pour l'invitation.
Lorsqu'Ivan Illich affirme, ou plutôt nomme, donne comme titre à son livre « Une société sans école », faut-il le prendre au pied de la lettre ou est-ce une provocation de sa part?
Oui et non. Le titre en anglais est « Deschooling Society ».
Deschooling Society, désécoliser la société.
Déscolariser, ouais. Désécoliser la société. Et l'idée, c'est plus de critiquer la manière dont les esprits sont complètement, en quelque sorte, influencés par l'école. Et diminué par l'école, plus que de complètement supprimer l'école. Et souvent, il fait la distinction, et notamment dans ses entretiens à la fin de sa vie, entre l'école et l'école obligatoire. Et il dit, au fond, je n'ai rien contre l'école, mais ce contre quoi je me bats, c'est l'école obligatoire.
Alors, commençons par le début. Qui est Ivan Illich?
Alors, donc, il est d'origine autrichienne et croate. Il a grandi dans différents pays, il a passé son enfance dans différents pays, il parlait différentes langues. D'ailleurs, il disait qu'il n'avait pas de langue maternelle. Et initialement, il a fait des études de cristallographie. Par la suite, il a fait une thèse en histoire. Il était également donc philosophe, théologien. Et c'est important à mentionner, il était également prêtre. Mais ses relations avec le Vatican se sont vite compliquées, en sorte qu'il a renoncé, en fin de compte...
À l'état clérical.
Absolument. Bien que cela n'ait jamais été pris en compte par le Vatican. Officiellement, il était toujours monseigneur, mais il avait renoncé au Vatican. Il avait coupé les ponts avec le Vatican au bout d'un certain moment.
Donc l'école n'était pas son souci premier dans son travail?
Il procède à une critique générale des institutions de la société industrielle et l'école est un cas parmi d'autres. Il critique également l'institution médicale, l'institution des transports. Mais c'est important donc de souligner qu'il était prêtre, il a étudié très finement l'histoire de l'Église et du développement de l'Église et comment le message chrétien a été en quelque sorte corrompu au fil du temps, parce qu'il réalise un parallèle entre l'Église, le clergé et l'école. Et au fond, il voit l'école comme une forme de nouvelle église. Et d'ailleurs, il dit très explicitement dans une société sans école, et ensuite quand il revient donc dans ses entretiens à la fin de sa vie sur sa critique de l'école, il dit, mais au fond, il faudrait faire avec l'école ce que l'on a fait avec l'église. C'est-à-dire l'État, au bout d'un certain moment donné, s'est détaché de l'église, et a considéré qu'il n'était plus de son ressort de financer l'Église. Ben, il faudrait faire la même chose avec l'école, éventuellement qu'il puisse y avoir des écoles, mais cela ne devrait pas être géré en quelque sorte par l'État, financé par l'État.
Ivan Illich a été une figure de proue de l'écologie. Il a beaucoup réfléchi à la fois sur l'écologie, sur le chômage, c'est la deuxième partie de son travail, le travail fantôme, notamment en 1981, sur l'avenir du livre, sur le langage, sur le concept de vernaculaire, on y reviendra, Martin Fortier. Sa pensée aujourd'hui a peut-être perdu de son côté provocateur, mais elle n'a pas forcément vieilli. J'en veux pour preuve qu'en fait, une grande partie de ses idées, notamment concernant l'école, sont aujourd'hui quasiment banalisées, voire revendiquées par certains acteurs contemporains de la scène économique. L'appel à mettre fin à l'éducation obligatoire, on l'entend notamment prononcé par Elon Musk, hein, qui est le CEO de Tesco, donc chef de file d'une position néolibérale aujourd'hui qui s'inscrit exactement dans cet héritage.
Alors, effectivement, quand on regarde un certain nombre de grands PDG de la Silicon Valley, tout ce qui se fait dans la Silicon Valley, on pourrait voir des liens très forts entre la pensée critique d'Illich, qui était une pensée plutôt anarchiste, très de gauche, etc., et puis un certain néolibéralisme ou le mouvement libertarien aux États-Unis. Et effectivement, je crois qu'il faut reconnaître qu'il y a des liens entre la pensée d'Illich et ce courant, mais il y a également des différences que j'espère on aura le temps d'explorer. Mais je crois que l'héritage aujourd'hui d'Illich, quand même, est le plus clair et le plus authentique, c'est auprès du mouvement de la décroissance et également de la critique du développement, puisque et ça c'est assez éloquent hein, dans sa critique de l'école. Il opère vraiment une critique de toutes les valeurs de progrès, de développement qui ont été bien souvent admises et qui aujourd'hui sont critiquées par un certain nombre de personnes.
Parce que dans sa critique de l'école, il faut d'abord y entendre une critique de l'institution. Écoutons-le, écoutons la voix d'Ivan Illich, c'était en 1972 au micro de Jean-Marie Domenac.
Il faut comprendre le mal que l'école fait. Dans ce but, il faut distinguer clairement entre ce que l'élève ou son instituteur personnellement font dans certaines circonstances, et ce que l'école structurellement, inévitablement fait. Quelquefois, un élève apprend quelque chose de l'instituteur, et chacun de nous se rappelle que quelquefois, pendant sa jeunesse, il a eu une journée, une heure, très illuminante avec un maître. Mais ça, c'est quelque chose de bien différent de ce que l'école enseigne dans le monde entier. Elle enseigne à l'enfant qu'il a besoin de l'institution pour apprendre. Il enseigne à l'enfant qu'il ne peut pas apprendre ce qu'un autre a jugé appartient à une classe supérieure. Il enseigne à l'enfant de se sentir classé par un bureaucrate. L'école enseigne inévitablement à l'enfant que l'enseignement que la société respectera est le produit d'une institution établie par cette institution et par des experts qui savent comment produire cette marchandise.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, les 10h08 et vous venez d'entendre la voix d'Ivan Illich nous dire, Martin Fortier, que l'école enseigne à l'élève qu'il a besoin de l'institution pour apprendre, comme si l'école se mordait la queue, ne servait qu'à prouver sa propre utilité. C'est une critique virulente contre l'institution scolaire de la part d'Ivan Illich.
Mais c'est vrai que quand on y réfléchit, on apprend énormément de choses en dehors de l'école. Et donc, la question que pose Illich, c'est, mais au fond, à quoi est-ce que sert l'école si l'on peut apprendre tout un tas de choses en dehors de l'école? Et on va voir qu'il y a aussi tout un tas de psychologues et anthropologues aujourd'hui qui reprennent cette critique d'Illich et qui mettent en évidence le fait que l'apprentissage, il se fait bien souvent de manière implicite, non planifiée, non programmée. Et donc, je crois que c'est une idée assez forte, mais assez convaincante, à mon sens, l'idée selon laquelle on apprend beaucoup de choses en dehors de l'école et que le mode d'apprentissage qui est à l'œuvre à l'école est un mode d'apprentissage particulier qui peut être pertinent pour certains types de savoirs, mais pas pour tous. Mais l'idée, donc partant de ce constat qu'on peut apprendre tout un tas de choses en dehors de l'école, Illich se pose la question, mais que fait l'école? Et une des réponses qu'il donne, c'est qu'en sortant de l'école, on peut avoir appris des choses, mais ce que assurément tout le monde apprend en dehors de l'école, c'est qu'on ne peut apprendre qu'à l'école et que le diplôme donne une valeur, certifie le savoir qu'une personne possède. Et ensuite, eh bien, si, par exemple, pour trouver un emploi, il est très difficile ou il est plus difficile de trouver un emploi si l'on n'a pas de diplôme que si l'on a un diplôme. Même certains emplois sont réservés à ceux qui possèdent certains diplômes et non pas nécessairement aux compétences positives qu'ils possèdent et pertinentes pour cet emploi. Et de manière générale, Illich s'intéresse beaucoup à l'effet de l'école dans les sociétés en développement. Notamment, il vivait au Mexique, donc il parle beaucoup du Mexique ou de l'Amérique du Sud. Et il observe que les gens ont tout un tas de savoir-faire qui sont transmis par les parents, qui sont transmis au sein de la communauté. De savoir-faire, par exemple, pour cultiver sa chakra, son jardin, enfin, se nourrir. Et qu'au fond, bah, les gens étaient relativement autosuffisants. Il y avait transmission de tous les savoir-faire qui étaient requis pour exister. Et là, tout à coup, les États décident d'imposer donc, l'enseignement et de construire des écoles dans ces villages, dans ces communautés. Et c'est à partir de ce moment-là que les enfants vivant dans ces communautés, allant à l'école, ayant des difficultés à apprendre ce type de savoir qui ne ressemble pas à ce à quoi ils ont l'habitude, ben vont apprendre au fond à l'école qu'ils valent moins que les gens de la ville qui sont allés à l'école, qui ont un baccalauréat, qui ont plusieurs années d'études dans le supérieur. Et donc ils ont ce sens d'infériorité qui va leur être inculqué par l'école.
L'école prétend séparer le savoir en matières distinctes, puis de ces blocs préfabriqués, bâtir conformément à un programme donné, enfin mesurer le résultat par quelques mètres étalons universels. Les hommes qui s'en remettent à une unité de mesure définie par d'autres pour juger de leur développement personnel ne savent bientôt plus que passer sous la toise. Il n'est plus nécessaire de les mettre à une place assignée, ils s'y glissent d'eux-mêmes. Ils se font tout petits dans la niche où leur dressage les a conduits. Au reste, ils n'imaginent plus qu'ils puissent en aller autrement pour leurs semblables. Tout doit trouver sa juste place, toute chose et tout être s'assembler sans heurts. Une fois rabaissé à cette taille médiocre, comment pourrait-il saisir l'expérience non mesurable? Elle leur glisse entre les doigts. Ce qui ne peut se mesurer d'ailleurs, ils ne s'y intéressent pas ou ils y voient une menace. Inutile maintenant de les dépouiller de leurs possibilités créatrices, ils ont retenu la leçon. Ils ont désappris à faire ou à être eux-mêmes, ils n'accordent plus de valeur qu'à ce qui est fabriqué ou le sera. Martin Fortier, dans cet extrait d'Une société sans école, d'Ivan Illich, la condamnation du système scolaire tel qu'il a lieu aux États-Unis, mais pas seulement, disons dans les pays capitalistes, est non seulement sans appel, mais elle a des conséquences terribles de manière pas simplement sociologique, ce que vous avez évoqué, mais aussi anthropologique. C'est que l'école dénature l'homme dans une perspective qui est quasiment celle de Rousseau. On parlait d'Émile hier. Dans lequel Rousseau montre qu'une éducation digne de ce nom devrait être dispensée par un seul gouverneur, avec un seul enfant, que l'école, au contraire, corrompt la nature humaine. Ici, on n'est pas loin, c'est un mélange entre Rousseau d'un côté et Bourdieu de l'autre qui dénonce le système de reproduction que l'école véhicule.
Oui, alors je ne sais pas, cette question de la possibilité de mesurer la compétence d'une personne, dans ce passage, effectivement, Illich dit clairement qu'il est impossible de mesurer justement la valeur d'une personne, et que donc, de ce point de vue-là, les certificats, les diplômes n'ont guère de sens. Mais dans d'autres passages, il dit qu'au fond, non seulement on peut mesurer la compétence d'une personne, mais qu'il y aurait d'autres moyens de le faire que le diplôme, qui serait bien plus pertinent que le diplôme. Et par exemple, sa critique consistera à dire, songeons à un médecin, qui doit, par exemple, faire beaucoup de mathématiques avant de devenir médecin, qui doit apprendre tout un tas de choses qui vont n'avoir aucune utilité dans sa profession, dans sa pratique quotidienne. Et ce que dit Illich, c'est, après tout, pourquoi est-ce qu'on ne formerait pas les médecins? Alors, il faut apprendre l'anatomie, par exemple, ou l'immunologie, et ça peut se faire dans une salle de cours. Mais il y a tout un tas de savoir-faire pratiques qui sont requis pour pratiquer la médecine, qui pourrait s'apprendre en pratiquant avec des médecins, des maîtres médecins, et les gens iraient en stage, et ils développeraient ainsi une compétence positive, une compétence réelle, alors que lorsque vous étudiez les mathématiques pour pouvoir pratiquer la médecine, vous n'apprenez rien qui va effectivement servir en tant que praticien médecin. Et donc Illich dit le diplôme, bien souvent, il certifie quelque chose qui n'est pas la compétence réelle de la personne pour exercer un certain métier. Et donc, de ce point de vue-là, quand même, il critique l'idée selon laquelle on pourrait mesurer la valeur d'une personne, la capacité d'une personne à exercer un métier. Et d'autres fois, il dit, dans d'autres passages, il suggère que, en fin de compte, on peut mesurer la compétence d'une personne et qu'il y a des moyens de le faire bien plus pertinents que le diplôme. Et un moyen qu'il promeut dans une société sans école, c'est en gros ce qui se fait aujourd'hui sur Airbnb, qui est l'évaluation par le client, le consommateur.
En fait, ce qui l'intéresse, c'est d'essayer de contourner l'institution elle-même, qu'elle soit scolaire ou autre, et de rétablir une forme de, à la fois de relation, mais aussi de transmission de connaissances, on y viendra, finalement, inter-individuelle.
Absolument. Et pourquoi est-ce que ce devrait être quelques personnes qui édictent des programmes et qui décident de, des matières qu'il faut étudier pour, par exemple, exercer la médecine ou prendre l'exemple d'être chauffeur de bus, enfin tout un tas d'exemples comme ça. Pourquoi est-ce que ce devrait être quelques experts qui décident des savoirs qu'il faut avoir pour exercer ces métiers plutôt que les consommateurs qui sont peut-être plus à même d'évaluer la valeur réelle du service qui est offert par la personne.
C'est là où c'est intéressant parce qu'on est presque à un point de bascule entre d'un côté la dénonciation d'une société capitaliste hyper normativisante qui fait que du coup ce sont les experts qui dirigent le monde, le capitaliste, donc la loi de l'argent qui dirige le monde, à tout problème on doit trouver une solution, dit-il, l'école véhicule cette attitude-là, mais de l'autre, quand il semble promouvoir un type de relation inter-individuelle d'évaluation perpétuelle et aussi de réseaux sociaux, on y viendra, il est quasiment un précurseur des réseaux sociaux, là on est finalement dans une société qui est aujourd'hui aussi dénoncée, qui est la société néolibérale, où il n'y a plus d'intermédiaires. C'est l'ubérisation de la société qu'il décrit ici, en 71.
Oui, alors, je crois quand même, donc effectivement, comme je disais, il y a certains parallèles entre la société promue par la Silicon Valley et ce que propose Illich. Mais je crois qu'il est important de faire une distinction entre trois formes de contre-productivité. Donc, Illich parlait de la contre-productivité des institutions de la société industrielle et, en l'occurrence, contre-productivité de l'école. Et il ne développe pas ces trois types de contre-productivité dans une société sans école, mais il le fait plus tard dans Némésis médical, qui est la critique de l'institution médicale. Et notamment dans la version française, il collaborait à ce moment-là avec Jean-Pierre Dupuis. Et Jean-Pierre Dupuis... remarque dans un livre récent pour un catastrophisme éclairé que Illich s'exprimait à grands coups de métaphores et de mythes, etc. D'ailleurs, dans le dernier chapitre d'une société sans école, ce sont des grandes figures mythologiques, etc., plus que des preuves très minutieuses et bien corroborées. Et Jean-Pierre Dupuis dit, au fond, j'ai travaillé dans ma collaboration avec Illich à mettre en équation les grandes métaphores d'Illich. Et donc, dans Némésis médical, suite à cette collaboration avec Jean-Pierre Dupuis, Illich distingue entre trois types de contre-productivité. La première, c'est la contre-productivité technique. C'est le fait qu'en allant à l'école, je passe 10 ans de ma vie à ne pas apprendre grand-chose et j'apprendrai plus si j'apprenais par d'autres moyens. Et on va voir qu'il y a des psychologues aujourd'hui qui montrent que c'est dans une certaine mesure le cas, ce que décrit Illich. Ça, c'est la contre-productivité technique. Ensuite, il y a la contre-productivité sociale, c'est ce dont on a parlé il y a un instant. C'est le fait que dans une société qui ne donne de valeur qu'au diplôme, je suis obligé de passer par l'école. L'école exerce ce qu'Illich appelait un monopole radical et ceux qui ne passent pas par l'école ne peuvent rien faire. Donc c'est la perte du pouvoir d'eux et l'obligation d'aller à l'école. Et puis il y a un troisième type de contre-productivité, c'est la contre-productivité qu'il appelle structurelle ou symbolique, et qui est l'idée selon laquelle l'éducation ou la connaissance est quelque chose, est une ressource rare, et que elle ne peut être acquise qu'auprès de certaines personnes spécifiques. Et au fond, là, il critique l'idée même selon laquelle il faudrait aller dans une institution et auprès de personnes particulières, c'est-à-dire s'extraire de sa vie quotidienne pour apprendre des choses. Et ça, c'est la critique la plus radicale qui soit, qu'il va développer dans sa seconde partie d'œuvre à partir des années 80. Et cette critique-là, je crois, elle diffère fortement de l'idéal de la Silicon Valley parce que, en critiquant le postulat de la rareté de cette ressource qu'est l'éducation, il s'extrait de toute cette logique du marché et il produit une critique, encore une fois, radicale des institutions. Parce que les penseurs de la Silicon Valley, par exemple en développant les MOOC et en développant les écoles privées, etc., que défendent les libertariens, sont encore dans cette logique selon laquelle l'éducation serait une ressource rare et que seuls certains experts peuvent transmettre des savoirs dans un endroit particulier qui est l'école, qui est hors de la vie.
Donc c'est la notion même d'expertise qu'ils mettent à mal.
D'expertise, tout dépend comment on l'entend. C'est-à-dire que Illich considère qu'il y a des gens qui sont compétents pour faire certaines choses. Et en ce sens, il y a des gens qui sont experts en leur domaine. Mais l'expertise se développe à même la pratique et non pas dans un lieu qui reproduirait un modèle réduit du monde et dans lequel on apprendrait cette apprendrait ce métier dans un modèle réduit
du monde. C'est ça qu'il reproche à l'école, c'est d'être d'avoir lu dans une salle de classe isolée du reste du monde, selon des règles qu'elle édicte elle-même et qui, bien loin que de préparer l'élève à vivre en société, lui, au contraire, lui assène des règles qu'elle va lui demander de répéter. Donc il y a une forme d'aliénation qui passe par l'école. Qu'en dit-il ? L'éducation, au sens large du terme, devrait passer davantage par un apprentissage que par un enseignement. Écoutez.
Tu vois, regarde, qu'est-ce que tu vois là ? Mesure avec ton mètre. Voilà, il y a presque 300, là tu as moins de 300. Qu'est-ce que t'en déduis ?
Ça arrive à 430. Hein.
Ah oui, parce qu'on le soulève. Oui. Bon bah t'as raison alors, c'est toi qui as raison. Allez hop.
Ah là, il vient de se passer quelque chose d'intéressant. Monsieur Cosson, menuisier, depuis combien de temps ?
Je sais pas, 15 ans, 20 ans, je sais pas, à peu près. Peut-être même plus, même.
Compagnon du devoir.
Oui.
Enseigne à Fabio apprenti.
Oui.
Lui donne un petit conseil et finalement, vous vous rendez compte que c'est lui qui avait raison.
Eh bien oui.
Est-ce que l'élève dépasse le maître ?
Pour ce qui est de certaines choses, je garde bien de m'engager. Il y a des choses, il faut qu'il découvre par lui-même.
Eh ben moi, c'est Fabio Bianchi, je viens de Meuse, à Bar-le-Duc. Je suis arrivé ici en juillet 2015, l'année dernière, quoi, l'été dernier. J'ai 19 ans. C'est le début de mon Tour de France. J'ai commencé à Nancy et il me reste encore à tourner X années, autant qu'il m'en faudra, autant que j'en voudrais surtout. J'ai un parcours classique, si vous voulez, parce que j'ai passé un baccalauréat scientifique et j'ai essayé la fac de sociologie. Mais je m'y retrouvais pas, il n'y avait pas assez de concret. Ou... Je sais pas, j'ai toujours voulu travailler de mes mains, je pense. C'est parce que j'ai tout de suite travaillé avec mon père, mais depuis que j'ai 3 ans, j'allais avec mon père au fournil, quoi.
Donc là, Alain Cosson, Fabio qui est en train de finir ce garde-corps, c'est donc, vous transmettez votre savoir. Il est salarié de votre menuiserie.
Oui. Et après, il va, il attend les changements de ville. Le voyage, c'est indispensable. Un jeune, s'il ne voyage pas, il ne peut pas avoir l'ouverture d'esprit de critiquer, de construire, de concevoir, d'être équilibré. Et s'il se confronte à différentes expériences, c'est que comme ça qu'il va pouvoir s'enrichir, pas financièrement, mais dans la tête. Et pour pouvoir être autonome et un jour être capable de relever des défis, n'importe soit-il, je veux dire.
Martin Fortier, on a ici dans cet extrait d'Un jour en France, diffusé le 16 mai 2016, et l'échange entre un compagnon du devoir et un apprenti, hein, Alain Cosson, menuisier, qui transmet son savoir à Fabio Bianchi, son élève, une des illustrations possibles d'une méthode, j'ose à peine employer le terme parce que je ne sais pas si Ivan Illich emploie lui-même ce terme, mais une façon, une démarche de transmission qui ne passe pas par l'école, qui ne passe pas par l'institution, et qui a finalement pour conséquence de substituer à la relation prof-élève celle de maître-apprenti.
Effectivement, le modèle de l'apprentissage est une bonne manière de penser une alternative à l'école. Il y a une distinction qui est faite par les philosophes de l'esprit contemporain qui est assez utile, c'est la distinction entre savoir que et savoir comment. Knowing that et knowing how.
Oui, effectivement, les philosophes analytiques contemporains insistent beaucoup sur cette
absolument.
Distinction.
Absolument. Alors, un exemple de knowing that, c'est de savoir que, c'est savoir que Lima est la capitale du Pérou. Et ce type de savoir, eh bien, il se communique verbalement, c'est-à-dire que je peux enseigner à quelqu'un, lui disant, écoute, la capitale de Lima est la capitale du Pérou est Lima. Je vais lui enseigner par une proposition verbale, et la personne va acquérir cette connaissance de cette manière. Et puis, il y a un autre type de savoir, que le savoir comment, par exemple, savoir comment faire de la bicyclette. Et là, on voit bien que ce genre de connaissance, il peut difficilement se transmettre à travers des mots et hors de la pratique. C'est-à-dire que la seule manière d'apprendre à faire de la bicyclette, c'est de faire du vélo, de pratiquer. Exactement, il faut pratiquer. Si j'écris sur un tableau, eh bien, il faut utiliser les pédales de cette manière. C'est ridicule. Je vais savoir que pour faire de la bicyclette, il faut faire ça, ça, ça et ça, mais ça ne me permet pas de faire de la bicyclette même. Bon. Alors, la grande question est de savoir, parmi tous les savoirs, toutes les connaissances dont on a besoin dans la vie, quelles sont celles qui relèvent du savoir que, quelles sont celles qui relèvent du savoir comment.
Oui, est-ce qu'il y a une distinction nette entre la théorie d'un côté et la pratique de l'autre?
Alors, je ne sais pas si ça recoupe la distinction entre théorie et pratique. C'est très débattu, cette question-là. Mais, à tout le moins, il semble évident que le savoir comment puisse très difficilement s'enseigner à l'école. Et donc, la question est, S'il y a énormément de savoir parmi tous les savoirs dont on a besoin pour vivre qui relève du savoir commun, alors effectivement l'école a peu de pertinence.
Et, enfin, l'école telle qu'elle a lieu aujourd'hui, parce qu'on peut imaginer une autre école qui soit
absolument
plus orientée vers la pratique.
Absolument. Et Litch serait au fond assez favorable à ce type d'école-là. Mais quand on songe à tout un tas de métiers, je ne sais pas, par exemple, faire du commerce. Mes amis qui sortent d'école de commerce me disent, ils ont fait des grandes écoles de commerce, ils me disent, au fond, j'ai passé plusieurs années sans ne rien vraiment apprendre. Et durant les 3 premiers mois où j'ai vraiment travaillé dans une entreprise, j'ai appris bien plus que durant toutes ces années. Et au fond, l'école de commerce, ça donne un carnet d'adresses, mais on n'apprend rien. Mmh. Et c'est par la pratique que l'on apprend. Si l'on pense à la révolution de l'informatique, la plupart des personnes qui ont participé à cette révolution n'étaient pas diplômées. Et pour cause, il n'y avait pas de diplôme pour devenir informaticien, etc. C'est des gens qui se sont formés par eux-mêmes à travers la pratique, l'échange de connaissances, etc. Et donc, effectivement, je pense que l'apprentissage est un bon modèle d'une manière alternative d'apprendre. Mais j'irai plus loin en disant que, parce qu'on pourrait faire l'objection, mais oui, mais l'apprentissage, ça se restreint à certains savoir-faire, par exemple artisanaux, mais ça ne peut pas s'étendre à d'autres types de savoirs. Par exemple, les savoirs académiques, par exemple, faire du commerce, etc., etc. Mais je crois que si on analyse les choses assez finement, on se rend compte que dans à peu près tous les domaines, eh bien, le savoir comment tient une place centrale. Il y a cet exemple assez amusant d'un mayaniste, un spécialiste du maya, qui s'appelle David Stuart. Ses deux parents étaient archéologues. Il a passé toute son enfance sur le terrain, en Amérique centrale. Et à l'âge de 12 ans, il était déjà reconnu comme un expert international sur le sujet. Il a écrit son premier article scientifique à l'âge de 12 ans. Et cet individu, qui est aujourd'hui un grand universitaire, n'est pas un génie. Il n'avait rien d'extraordinaire. La seule chose qui s'est passée, c'est qu'il a passé plusieurs années sur le terrain, avec ses parents, il était attentif.
Mais Martin Fortier, est-ce que ce n'est pas un peu binaire quand même comme raisonnement ? Est-ce qu'une chose est de constater que l'école est sans doute insuffisante, qu'elle ne transmet pas l'apprentissage nécessaire à une éducation bien comprise, complète, qui concerne d'autres parties de l'individu que son seul intellect ou son savoir mathématique ou littéraire ? Une autre est de dire qu'il faut complètement éradiquer l'école de la société. Vous voyez ce que je veux dire ? On peut critiquer la société sous beaucoup, beaucoup d'aspects, tout en reconnaissant peut-être une utilité théorique, dont cette utilité ne serait pas retrouvée ailleurs. Peut-être qu'elle est quand même irremplaçable, imparfaite, insuffisante, mais peut-être utile quand même.
Mais encore une fois, je crois que tout dépend les personnes que l'on veut former et les types de savoirs que l'on veut transmettre. Par exemple, la philosophie, c'est quelque chose qui se discute dans une salle. Enfin, ça peut se faire dans un jardin, comme ça s'est fait dans l'Antiquité, en différents endroits. Mais c'est vrai que le mode de transmission verbale, propositionnel, convient assez bien à ce type de savoir. Mais une société n'est pas composée que de philosophes.
Et je pense que, voilà, une société sans école. Pourquoi plus d'école du tout?
Mais, à vrai dire, la plupart des humains, si on regarde dans l'histoire de l'humanité, la plupart des sociétés humaines ont fonctionné sans école. Pourquoi est-ce que l'on trouve ça absurde de parler de société sans école ? C'est la norme, une société sans école.
Plus aujourd'hui.
Une société sans école, voilà, c'est la norme, mais de ce point de vue-là, dans le dernier siècle, et aujourd'hui sur l'ensemble de la planète, il n'y a plus guère d'endroits où on trouve des sociétés sans école. Mais il faut bien se rendre compte de la singularité de ce que l'on vit aujourd'hui. Et je ne sais pas, si je vous faisais passer votre bac à nouveau et que l'on comparait les connaissances que vous aviez quand vous avez passé votre bac et celles que vous avez aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez gardé précisément du baccalauréat, de toutes ces années de lycée au fond, enfin, moi, si je prends mon cas, je peux vous assurer que j'ai oublié beaucoup, beaucoup de choses.
Et pourtant, vous êtes, ce que dirait Illich, dans la reproduction même de l'élève qui est allé à l'école et resté à l'école, en fait.
Absolument.
Donc, du coup, vous êtes plus proche de ces connaissances-là que d'autres personnes qui auraient pu avoir un métier complètement différent.
Oui, mais ce qui se produit est la chose suivante, c'est qu'on retient les choses que j'ai retenues de toutes mes années d'école, c'est les choses dont je me sers aujourd'hui. Et tout le reste, je l'ai oublié. Donc ça, c'est quand même un premier argument, qui est qu'on enseigne tout un tas de choses à l'école dont l'enfant ne voit pas la pertinence et qui ensuite n'ont pas de pertinence par la suite dans sa vie. Et quand bien même il y a des choses dont il va avoir besoin dans sa vie, par exemple les mathématiques, il n'est pas certain qu'il puisse en réalité se servir de ses savoirs acquis à l'école, parce qu'il y a ce problème qu'en psychologie on désigne par le transfert de connaissances. C'est-à-dire que je peux parfaitement apprendre à résoudre des équations sur une feuille de papier, mais quand il s'agit de traduire cela en pratique, de transférer cela dans la pratique de tous les jours, eh bien ça ne fonctionne pas. Et il y a des psychologues et anthropologues qui ont étudié cette question et qui ont démontré que des personnes étaient capables de résoudre des problèmes mathématiques dans leur vie quotidienne, et quand on les traduisait en équations sur une feuille, ils n'en étaient pas capables, et inversement, ils étaient très mauvais. Voilà.
Alors, on va en venir aux solutions que propose Ivan Illich, parce qu'il y en a, et puis aux lectures contemporaines de cette œuvre qui a quand même vraiment marqué toute une génération, plusieurs générations même. Mais avant ça, Martin Fortier, comment Ivan Illich peut-il d'un côté dénoncer la logique de l'efficacité dans laquelle est prise l'école américaine, puisqu'il parle beaucoup de l'école américaine, mais disons capitaliste, dans une société capitaliste au sens plus large du terme, dire que le problème est qu'on enseigne les élèves à vivre comme si à chaque problème se trouvait une solution, et donc être dans ce règne de l'efficacité, de l'utilité, et de l'autre, reprocher à cette même école en fait d'être inutile et de dispenser des connaissances qui ne sont pas utiles à la vie de l'individu.
Absolument. Alors, c'est une excellente question et je crois qu'il est important pour y répondre d'introduire la notion de vernaculaire.
Allez-y.
Alors, et je vais prendre l'exemple de la... parce qu'il emploie beaucoup cela à propos de la langue. Alors, la distinction entre une langue planifiée et une langue vernaculaire est la suivante. Prenons l'exemple de la création de la grammaire espagnole en 1492 par Nebrija. Donc Nebrija est le premier à formaliser, à standardiser le castillan, et il écrit à la reine Isabelle en lui disant « Écoutez, ce serait bien de... » Les gens parlent tout un tas de dialectes en Castille aujourd'hui, et ce serait bien de promouvoir cette grammaire que je vous propose, et de l'imposer partout, de l'enseigner partout, pour pouvoir standardiser le castillan, que les gens parlent la même langue partout. Quand nous irons faire des conquêtes à l'étranger, on pourra imposer une langue uniformisée, et ce sera extrêmement pratique. Et le modèle de langue qu'introduit à ce moment-là Nebrija, c'est l'idée selon laquelle les gens doivent parler une langue qui a été conçue, inventée par quelques spécialistes, quelques grammairiens, et qui s'impose de haut en bas. Et Illich oppose à ce type de langue planifiée la langue qu'il appelle vernaculaire. Et le vernaculaire, qu'est-ce que c'est ? C'est une langue qui s'élabore à même la vie, dans l'immanence de la vie. C'est-à-dire une langue qui est parlée par les gens qui vivent, qui parlent de leurs vaches, qui vaquent à leurs occupations quotidiennes. Et c'est une langue qui va évoluer, non pas parce qu'un grammairien a décidé qu'elle devait évoluer dans ce sens ou dans cet autre sens, mais parce que c'est le développement naturel de la langue, l'évolution naturelle de la langue dans la pratique quotidienne. Et donc, pour revenir à la question que vous posiez, mais au fond, Illich, est-ce que ce n'est pas un grand utilitariste qui n'a pour obsession que l'efficacité ? Eh bien, il faudrait distinguer entre deux types d'efficacité, des deux types de buts. Un premier but, c'est certains gouvernants ou certains technocrates qui décident que l'on doit enseigner un certain contenu à l'école afin donc de réaliser, c'est des buts afin d'obtenir une efficacité dans des buts qui sont fixés par des technocrates. Il faut opposer cela à des buts et une efficacité qui apparaît en immanence, c'est-à-dire au sein de la pratique, au sein d'une communauté. Et si une communauté a besoin de menuisiers et de paysans, alors c'est très bien que ces menuisiers et ces paysans soient très efficaces. Mais si en revanche, une instance, par exemple un roi, décide qu'il est bon que dans cette société on réalise tel but, et qui met en place une structure, une institution pour réaliser ce but, eh bien ça c'est le type d'efficacité que va critiquer Illich.
Donc il faut parce qu'elle est arbitraire.
Parce qu'elle s'impose de haut en bas.
C'est ça. On en revient à la critique de l'institution et de l'investissement de l'État public, enfin de l'État, dans l'école, pour en revenir au début de notre discussion.
Absolument. Donc il faut distinguer entre l'efficacité dans la réalisation des fins qui sont fixées par les gens mêmes et l'efficacité dans la réalisation des fins qui sont fixées par une instance supérieure.
Lorsqu'il s'agit de construire un monde où la vie quotidienne aurait une vertu éducative, trouver des ressources destinées à un équipement spécifique n'est qu'un des problèmes auxquels il faut faire face. Et c'est peut-être le plus facile à résoudre. Avec l'argent actuellement dépensé pour les objets de culture de la scolarité, il serait aisé de faciliter le libre accès des citoyens à la vie réelle de la cité. Une première étape consisterait sans doute à consentir des avantages fiscaux à tous ceux qui emploieraient quelques heures par jour des jeunes entre 8 et 14 ans, à condition bien entendu que ce travail n'excède pas leurs forces. Il nous incombe en effet de lutter contre ce désengagement qui est le propre de la jeunesse confiée à l'école. On pourrait aussi concevoir une solution plus révolutionnaire encore, en créant une sorte de banque. Ainsi, on donnerait à chaque citoyen un premier crédit lui permettant d'acquérir des connaissances de base. Ensuite, pour bénéficier de nouveaux crédits, il devrait lui-même enseigner, soit dans les centres organisés, soit chez lui, voire sur des terrains de jeu. Le temps passé à enseigner par l'exemple et la démonstration serait celui-là même qui permettrait de bénéficier des services de personnes plus instruites. Une élite entièrement nouvelle apparaîtrait, constituée de ceux qui auraient gagné leur éducation en la partageant avec autrui. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, les 10h37, et voici donc les solutions qu'Ivan Illich propose pour essayer de compenser le manque qu'il y aurait, soi-disant, pensons-nous, à une société sans école. Et bien, comment du coup faire pour transmettre une forme d'éducation? Voilà quelques-unes des hypothèses qu'il propose. Pour construire un monde où la vie quotidienne aurait une vertu éducative, et bien, trouver des ressources destinées à cet équipement spécifique est finalement assez facile. On pourrait, par exemple, faire travailler les jeunes de 8 à 14 ans dans la limite de leurs forces disponibles. Ou bien, une solution plus révolutionnaire, créer une sorte de banque. On vivrait à crédit tant qu'on serait dans un geste d'apprentissage. Et puis, dès lors qu'on transmettrait notre connaissance, alors là, au contraire, on s'acquitterait de notre crédit. Ce sont deux idées qui sont à la fois très provocatrices, Martin Fortier, et en même temps, qui semblent tomber sous le sens. C'est ça qui est surprenant.
Oui. Et là encore, les détracteurs d'Illich pourraient y voir une forme de néolibéralisme
bien
scandaleux.
Il parle de banque et il veut faire travailler les...
Absolument. Mais alors, c'est difficile à commenter parce que Illich lui-même, encore une fois, dans la seconde partie de son œuvre, va être extrêmement critique vis-à-vis de ce genre de proposition. C'est-à-dire qu'il est encore pris dans cette idée selon laquelle il faut organiser des choses complexes et il promeut l'existence de réseaux de savoir, de réseaux d'apprentissage.
Le terme de réseau est très important, hein, parce que ça aussi, il semble, là, dès 71, envisager une société qui serait basée, enfin, qui serait sur une organisation réticulaire, donc par réseau. Mmh. On dirait un précurseur des réseaux sociaux contemporains, c'est assez hallucinant.
Absolument, de l'Internet, l'apprentissage par Internet, en autodidacte, des MOOC, des enseignements en ligne, des cours d'enseignement en ligne. Donc c'est vrai que Illich, dans une société sans école, promeut tout cela, et ça ressemble beaucoup, effectivement, à certaines choses que défendent les grands promoteurs de la Silicon Valley. Mais dans la seconde partie de son œuvre, il critique cette idée selon laquelle il faudrait planifier tout un tas de choses, mettre en place des structures, comme bien même ces réseaux de savoir, pour pouvoir permettre aux gens d'apprendre des choses. Et il va devenir beaucoup plus radical qu'il ne l'était en disant, mais au fond, pourquoi faudrait-il faire quelque chose de spécial pour permettre aux gens d'apprendre quand, depuis l'histoire de...
Quand on regarde l'histoire de l'humanité... C'est la chose la plus banale du monde.
Absolument, c'est naturel d'apprendre. Et l'idée, par exemple, de permettre aux jeunes enfants, aux adolescents, de travailler.
Enfants même, parce que c'est avant 14 ans quand même.
Absolument. Enfants de travailler. Illich a été très influencé quand il revient, quand il discute d'une société sans école, il dit « Je n'aurais pas pu écrire une société sans école sans Philippe Ariès et son analyse du développement, ce concept d'enfant, c'est-à-dire l'enfance, c'est quelque chose qui a été inventé relativement récemment, il y a quelques siècles, et l'idée selon laquelle l'enfant est un individu spécial, particulier, qui doit être retiré de la société des adultes, et il vit dans une... c'est une forme de ségrégation, en quelque sorte, des enfants. On les retire de la vie, et on leur fait faire des choses que les autres ne font pas.
C'est ce que dit la psychologue contemporaine Barbara Rogoff.
Absolument.
N'est-ce pas, qui est très illichienne dans sa pratique et qui défend l'idée que l'interdiction du travail des enfants a produit une ségrégation des enfants du reste du monde et des activités quotidiennes en les reléguant à n'être que des spectateurs du monde.
Absolument. Elle a beaucoup travaillé sur cette forme d'apprentissage qu'elle appelle « observing and pitching in ». C'est-à-dire, on observe et puis on met la main à la pâte. Et elle montre... Donc elle a beaucoup travaillé dans les sociétés mayas d'Amérique centrale, et elle montre combien cette forme d'apprentissage en observant et en mettant la main à la pâte, bien qu'est-ce que c'est ? Je suis avec par exemple ma mère qui est en train de tisser, et la petite fille, elle observe, de temps en temps elle fait quelques petites tâches, et elle apprend sans avoir l'intention d'apprendre, juste en étant là, en observant ce qui se fait. Et Barbara Rogoff effectivement, elle dit que c'est une forme d'apprentissage extrêmement intéressant, extrêmement important, qui permet d'apprendre une foule de choses. Et en réalité, la plupart des choses que l'on apprend, et notamment dans ces sociétés-là, sont apprises de cette manière.
Et donc c'est pas faire travailler les enfants de manière salariée avec un contrat de travail, c'est simplement vous dites les inviter à mettre la main à la pâte, à pratiquer, à apprendre de manière
Et c'est là que
pragmatique.
Je crois que le travail de Barbara Rogoff correspond bien mieux à l'Illich du vernaculaire, qui dit mais il n'est pas besoin de planifier quoi que ce soit, il suffit que les gens vivent. N'est-ce pas, qu'ils se livrent à leurs occupations quotidiennes, et en se livrant à ces occupations quotidiennes et en permettant aux enfants juste d'être là, eh bien, les enfants vont apprendre. Et Barbara Rogoff a l'avantage aussi de, ça vient corroborer les thèses d'Illich, de mener des protocoles expérimentaux pour tester ces hypothèses. Et par exemple, elle a pu montrer que les enfants mayas, eh bien, ont certains avantages par rapport aux enfants américains. Donc, ce qu'elle fait, c'est par exemple, elle demande aux enfants de résoudre un problème à plusieurs. N'est-ce pas ? Donc, il faut par exemple construire une figure à plusieurs. Et elle a remarqué que les enfants, donc tout ça c'est fait de manière très stricte et systématique, et elle a comparé que les enfants mayas, quand ils se livraient comme ça à une tâche, eh bien ils arrivaient à collaborer avec beaucoup de fluidité, à construire l'objet, à réaliser, à résoudre le problème avec beaucoup de fluidité en contribuant tous à la tâche, alors que les enfants américains allaient avoir tendance à découper de manière analytique la tâche. Une personne va résoudre telle partie du problème, une autre personne telle autre partie, ou bien un autre va diriger et imposer à l'autre enfant de résoudre tel problème. Et donc elle montre que, par exemple, pour la résolution de problèmes, les enfants mayas, du fait de cette habitude qu'ils ont à apprendre en observant et en mettant la main à la pâte, ont un certain avantage. Également, dans une autre expérience, elle montre que quand bien même on ne demande pas à l'enfant d'observer un enseignement qui est en train de se faire, c'est-à-dire il y a un adulte qui est en train de transmettre une connaissance à un enfant, et il y a un troisième enfant qui est là présent, eh bien elle montre que ce troisième enfant, quand c'est un enfant maya, on ne lui demande pas de regarder ce qui est en train de se faire, mais par lui-même, il va être beaucoup plus intéressé, il va prêter beaucoup plus attention à cette transmission qui est faite que les enfants américains. Et ça correspond à cette idée que dans la vie quotidienne, eh bien, ils vont prêter attention à tout ce qui se passe et acquérir les connaissances qui sont implémentées en quelque sorte dans les activités des adultes autour d'eux.
Alors, trouver au sein de la vie quotidienne les ressources, pas seulement financières d'ailleurs, les ressources au sens large du terme, même de compétences nécessaires pour transmettre des connaissances d'un côté et les recevoir de l'autre, pratiquer un mode de diffusion des connaissances qui soit plus horizontal que vertical, qui se passe, qui fait l'économie du détour par l'école, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les réseaux, c'est ce qui se passe aujourd'hui sur Internet. En voici un exemple, Martin Fortier, vous allez nous dire, est-ce que c'est fidèle à ce que Ivan Illich appelait de ses voeux ?
Les chroniques écologiques du professeur Feuillage.
Salut mes petits chasseurs-cueilleurs. Rappelons brièvement ce qu'est l'énergie éolienne. Le vent est formé par les déplacements de masse d'air en fonction de leur température. Au fil du temps, l'homme a su tirer parti de cette énergie gratos pour se déplacer. Mais également pour une énergie mécanique. Hey.
Depuis quelques années, on se sert du vent pour produire de l'électricité, et ce, grâce aux éoliennes. Si vous n'avez jamais vu d'éolienne, c'est que vous êtes resté kéblo dans les 80s à susauter les raiders devant le Minitel. Une éolienne, voilà à quoi ça ressemble.
Pour la faire simple, le vent fait tourner une hélice composée de 3 pales. Le mouvement est transmis à la nacelle par un arbre mécanique qui fait tourner le rotor dans l'alternateur, une sorte de grosse dynamo. Ensuite, le courant électrique descend le long de l'éolienne, sa tension est élevée par un transformateur, le courant électrique peut rejoindre le réseau national. En France, 5500 éoliennes produisent 17,5 TWh, soit 3,7% des 500 TWh que nous consommons au total. En 2015, la puissance installée a dépassé le chiffre symbolique de 10 000 MW. Et si tu ne te souviens pas la différence entre un watt et un water, eh bien retourne au lycée.
Connaissez-vous le professeur Feuillage, Martin Fortier?
Non, je ne connaissais pas.
C'est un youtubeur parmi tant d'autres qui fait des chroniques sur l'écologie et qui est un exemple, encore une fois, parmi tant d'autres, du mode de transmission contemporain du savoir. Quiconque détient un savoir, en l'occurrence sur l'écologie, a la possibilité, grâce à Internet, de mettre ce savoir en scène, de le diffuser, et quiconque est doté de l'outil Internet peut le regarder. Il y a une évaluation qui se fait. À la diffusion de chaque vidéo, il y a les likes, hein, les pouces levés ou les pouces baissés. Donc on voit tout de suite ce que chaque personne pense de chaque vidéo. C'est une espèce de valorisation des compétences sans juge externe. Donc effectivement, on sort complètement de la norme et du système de notation de l'école. L'horizontalité est présente. Est-ce qu'on est là dans ce que Ivan Illich appelait de ses voeux?
Oui et non, c'est-à-dire que là, il s'agit simplement de vulgariser ou de transmettre un contenu qui reste quand même un savoir propositionnel, un savoir que, quand on faisait la distinction tout à l'heure entre savoir que et savoir comment. Mais dans ce cadre-là, et il est important, il y a tout un tas de connaissances dont on a besoin qui relèvent de ce savoir que.
Enfin, pardon, mais c'est aussi un savoir pratique aussi, un savoir comment. Il faut savoir faire une vidéo. Alors, il faut monter, c'est un travail énorme.
Non, d'accord, non, mais je veux dire le contenu qui est enseigné dans la vidéo.
Oui, mais là, on va passer
dans la vidéo.
Ouais.
Oui, non, mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que là, cette vidéo, elle introduit certaines idées sur qu'est-ce qu'une éolienne. Mm-hmm. Donc, c'est un savoir qui est propositionnel, qui est encore relativement théorique, alors que la question centrale, quand même, qu'aborde Illich dans son ouvrage, c'est on a besoin de professionnels, on a besoin de gens qui ont des métiers, qui guérissent d'autres personnes, qui conduisent des autocars. Et comment est-ce que l'on va former ces gens-là? Alors, on pourrait imaginer, effectivement, qu'il y ait des formations, il y en a de plus en plus, par des vidéos...
Tutoring. Ouais.
Exactement, sur l'Internet. Mais là, je crois que... Alors, le premier Illich, avec ses réseaux de savoir... serait assez favorable à cela et probablement s'y retrouverait certainement. Mais le second Illich serait probablement beaucoup plus critique. Et en cela, rejoint par la psychologue dont on parlait il y a un instant, Barbara Rogoff, ou notre anthropologue et psychologue Jean Lave, qui insistent tous, donc à la fois Illich dans le genre vernaculaire ou le travail fantôme, et ces psychologues qui insistent sur l'importance de la pratique, sur l'importance de... Jean Lave parle d'apprentissage situé.
La participation aux tâches.
Exactement, c'est-à-dire que en regardant une vidéo, vous ne pratiquez pas, vous n'exercez pas véritablement le savoir-faire, ce n'est pas en situation. Et Jean Lave a montré que, on parlait de cela rapidement tout à l'heure, c'est que les mathématiques, par exemple, il y a une très grande différence entre savoir résoudre une équation sur une feuille de papier, dans une tâche qui est complètement décontextualisée, qui ne correspond pas à une situation précise, et la réalisation d'équations, de tâches mathématiques, en situation dans la vie réelle.
Mais ça, on peut l'obtenir aussi dans la vie virtuelle, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeux vidéo qui mettent en scène des situations qui appellent des compétences chez le joueur qui, sans ça, ne seraient jamais mises en œuvre.
Alors, effectivement, avec la réalité virtuelle, peut-être pourra-t-on développer, on pourra recréer des situations particulières et cet apprentissage, à même la pratique, eh bien, sera rendu possible par ces environnements de réalité virtuelle. Mais ce sur quoi insistent aussi les théoriciens de l'apprentissage situé, c'est que non seulement il faut que ce soit dans une situation particulière, Mais il faut également qu'il y ait toute une collectivité autour de soi. Quand on parlait d'apprendre en observant et en mettant la main à la pâte, ben, il faut qu'il y ait des gens autour de moi qui soient en train de réaliser ces tâches. Alors effectivement, hein, dans un horizon, je ne sais pas, de quelques décennies, on pourra peut-être reproduire tout cela, simuler tout cela en réalité virtuelle. Et dans ce cas-là, on pourra transmettre de manière, sur un réseau virtuel, ces connaissances.
On a parlé de Barbara Rogoff, de Jean Lave. Est-ce que les lecteurs d'Ivan Illich aujourd'hui sont nombreux, ceux qui essayent de mettre en pratique sa pensée?
À ma connaissance, pas tant que ça. Et à vrai dire, Barbara Rogoff ou Jean Lave évoquent en passant parfois Ivan Illich. Mais j'ai l'impression que les thèses d'Illich ne sont pas vraiment prises au sérieux ou considérées par ces gens-là, bien que leurs travaux concorde et corrobore ce que dit Illich, mais ils ne prêtent pas grande attention à Illich même et ne prennent pas beaucoup de temps, ne le discutent pas énormément, à vrai dire.
Vous le prenez au sérieux?
Oui, je le prends au sérieux dans la mesure où aujourd'hui il existe des travaux en psychologie cognitive ou en anthropologie cognitive qui corroborent ces thèses, mais de manière générale, je crois que quand même Illich reste un pamphlétaire, en tout cas dans ses essais des années 70, et il est très provocateur, il remet en cause certains présupposés, et tout cela est important, mais il ne démontre pas avec une grande minutie l'ensemble de ses thèses, et il est important de lire les psychologues et de lire les anthropologues pour voir dans quelle mesure, effectivement, les thèses d'Illich sont justifiées ou pas.
Merci à vous, Martin Fortier, d'être venu nous parler d'Ivan Illich aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Je rappelle que vous êtes doctorant en philosophie et sciences cognitives à l'Institut Jean Nicot et doctorant visitant au département d'anthropologie de l'Université de Stanford. Chers auditeurs, lisez les œuvres complètes d'Ivan Illich, disponibles chez Fayard. Et oui, c'est un peu attendu cette semaine, mais il aurait été dommage de s'en priver. De Pink Floyd, bien sûr. Breaking the Wall, Another Breaking the Wall. Sur France Culture, les chemins de la philosophie. Il est l'heure, comme tous les jours, de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Et donc, le journal de la philo par Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous. Eh bien, je vais vous parler de l'utilité de la philosophie, car avoir les nombreux articles, essais ou encore interventions qui relèvent de cette discipline, c'est bien cette question qui s'impose. À quoi sert-elle? Pourquoi y faire appel? De quel secours est-elle? Alors certains diront à débrouiller le réel en soulevant les bonnes questions, sans savoir pourtant ce qu'est le réel ou une bonne question. D'autres répondront à rien, et ils auront sûrement raison. Et enfin, d'autres diront à mieux vivre. Et c'est cette dernière possibilité qui nous intéresse aujourd'hui. Mieux vivre, voire vivre bien, et même, pourquoi pas, atteindre le bonheur grâce à la philosophie et grâce à ces deux essais qui viennent tout juste de paraître. Alors d'abord, la réédition de Métaphysique du bonheur réel d'Alain Badiou aux éditions PUF, et puis ensuite, la parution d'Un bonheur sans mesure de Laurence de Villers chez Albin Michel, où tout commence, selon elle, avec cette paradoxale injonction à être heureux.
Disons que je commencerai par un petit footing, histoire de me mettre en jambes. Un parcours de golf ou une plongée par paliers successifs. Un petit tennis, revers, coup droit, revers. Oh, je sens que le temps se gâte. On verra demain. Club Med, le bonheur si je veux.
À la fin des années 80, ce célèbre club de vacances nous exhortait donc au bonheur si on veut. Si on veut, ce n'était pas une nécessité, ce n'était pas obligé. Et tel est bien le paradoxe que Laurence de Villers dégage dès le début de son livre avec ce slogan « Pourquoi, depuis quand, le bonheur est-il donc devenu une obligation ? À quoi bon un bonheur auquel on serait obligé ou du moins dont le désir serait bien réel mais néanmoins provoqué et orienté ? À croire que ce désir de bonheur serait aujourd'hui plus fort que le bonheur lui-même. Il y a donc une ironie de la philosophie à lire ces pages. Quand on attend d'elle qu'elle nous conduise au bonheur, elle nous pousse en fait à interroger ce désir même. Pourquoi vouloir le bonheur ? Pourquoi le vouloir vraiment, consciemment ? Et comment l'exercer et sous quelle forme ?
Peut-être un dernier lambeau de mon platonisme congénital, parce qu'après tout, la question du bonheur est centrale chez Platon, quand, d'un bout à l'autre de son œuvre. Et il y a eu des interprétations ascétiques de Platon, mais je pense qu'elles sont des déviations malgré tout. Lui tient absolument à démontrer que le bonheur est possible, et qu'il est possible par des voies qui sont compatibles ou consolidées, en tout cas par la philosophie. Alors ça, c'était une première fidélité à mon maître le plus ancien, mais je crois aussi qu'il y a une actualité de la question du bonheur. Il y a une actualité, y compris politique, parce qu'après tout, la justification... Des modes de confort contemporains, de la transformation des conditions matérielles des vivants, etc., pose la question de savoir si tout cela, qui est au fond la loi du développement moderne du monde, pour ne pas employer le mot capitalisme qui fait grossier, mais cette loi doit être interrogée quant à la question de savoir si réellement elle propose un bonheur nouveau, aussi bien aux collectivités qu'aux individus. Et donc la question du bonheur fait quand même partie de ce qu'on pourrait appeler le programme d'une critique générale du monde contemporain, quelle que soit la conclusion de cette critique.
Le désir de bonheur reste malgré tout, malgré cette critique de la modernité, ce désir de bonheur reste inchangé chez le philosophe Alain Badiou qui parlait à votre micro même, Adèle, c'était en janvier 2015, et donc de ce vieux reste de platonisme. Mais plus que le désir de bonheur, c'est justement l'exercice du bonheur qui l'intéresse dans sa métaphysique du bonheur réel. Comment la métaphysique, l'exercice d'une pensée logique et la découverte de vérité est le signe de cet état de béatitude, et même cette béatitude elle-même, c'est bien ce que veut nous démontrer ici Alain Badiou. Mieux donc que de mener au bonheur ou d'interroger le bonheur, et si la philosophie était ainsi et par elle-même le bonheur. Et c'est à découvrir avec ces deux livres. Métaphysique du bonheur réel, c'est au PUF, c'est donc d'Alain Badiou. Et Un bonheur sans mesure, c'est de Laurence de Villers, c'est chez Albin Michel.
Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Merci à David Pargamin qui a préparé cette émission, ainsi que Claire Perryman-Holt, Pauline Vermeren, Marianne Chasseur, Géraldine Mosna-Savoie, Olivier Bétard qui réalise cette semaine, et Youtou Diego Aclopez qui est à la prise de son aujourd'hui. A demain pour les chemins du vendredi, demain journée spéciale autour de la radicalité sur France Culture. Pour l'occasion, je recevrai la philosophe Marie-Josée Monzin et Malek Bouti, auxquels je poserai une question. Où commence la radicalité ? D'ici là, rendez-vous sur nos pages Facebook et Twitter, où nous attendons vos remarques et commentaires. Rendez-vous sur le site des Chemins de la Philosophie, où vous trouverez toutes les informations bibliographiques et musicales concernant l'émission du jour. Vous pourrez également réécouter l'émission, la télécharger, la podcaster, afin de l'écouter où vous voulez. Et quand vous voulez, à demain 10h donc, et d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.